écoutez La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Il est 18h30, temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du 3 septembre 2014. Ici Chérubin Dorsil et Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, en tournée en Europe, Barack Obama dénonce l'agression russe en Ukraine et promet de sévir contre l'État islamique en Irak et en Syrie.
Au Nigeria, la lutte contre Boko Haram au centre d'une rencontre internationale sur la sécurité.
En République démocratique du Congo, l'ONU déplore la lenteur du désarmement au sein des FDLR. Et nous aurons les sports et la musique bien sûr en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Le Nigeria a accueilli ce mercredi une réunion internationale sur la sécurité et la lutte contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Le groupe islamiste est plus que jamais prêt à s'emparer du nord-est du pays après une série d'attaques fulgurantes ces dernières semaines. Notre correspondant au Nigeria, Boubacar Gwarzo, fait le point sur la réunion d'Abuja.
Et on essaie bien sûr de le joindre, Morgane. En attendant, disons que le gouvernement somalien se félicite de l'attaque américaine au drone qui ciblait mardi les leaders du groupe islamiste Al-Shabaab, en particulier son principal chef Ahmed Abdi Godan. Mais on ne sait pas encore si ce dernier a été tué.
La Guinée a fait état d'un nouveau foyer d'Ebola, cette fois-ci dans la préfecture de Kérouane, dans le sud-est. Cette région est située près de celle où l'épidémie s'est déclarée. Les autorités disent avoir dépêché des équipes sur place. En Grande-Bretagne, un infirmier britannique contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone a quitté l'hôpital à Londres aujourd'hui.
Sachez que le dernier bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 1900 morts sur 3500 cas confirmés d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
Conflit centrafricain, au moins 5 personnes ont été tuées hier lors d'une attaque à Nana Bakassa, à 300 km au nord de Bangui. On compte autant de blessés. D'après un officier de la force africaine MISCA, cité par l'AFP, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut cette localité. Ils s'en sont pris aux individus et aux maisons. Ces hommes armés ont été identifiés par la population comme étant des ex-rebelles. C'est le cas, a affirmé l'officier, sans pouvoir confirmer cette information dans l'immédiat.
Revenons sur la rencontre internationale sur la sécurité au Nigeria avec notre correspondant Aboubacar Gwarzo.
C'est le ministre des pays frontaliers du Nigeria, le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, les représentants des Nations Unies, les représentants des États-Unis et la CEDEAO. Ils se sont réunis pour discuter une nouvelle stratégie de lutter contre le terrorisme, précisément Boko Haram, qui dérange la sous-région. C'est une manière aussi de renforcer les frontières. C'est pour cela que les ministres d'affaires étrangères des pays frontaliers du Nigeria se sont réunis à Abuja pour améliorer une nouvelle stratégie, comment lutter contre les militants de Boko Haram. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a demandé aussi les pays frontaliers d'aider le Nigeria aussi à protéger leurs frontières pour que l'armée nigériane combatte facilement les militants de Boko Haram.
Concernant l'attaque au drone des États-Unis contre les leaders d'Al-Shabaab en Somalie, écoutons Lola Akomachri.
À l'issue d'une réunion d'urgence du cabinet somalien, le porte-parole Ridwan Hadji Abdiweli a exprimé le soutien de son gouvernement à toute opération contre Al-Shabaab. Et il assure que de telles attaques continueront, ajoutant que seul le gouvernement somalien a le droit de gouverner cette nation et non pas des groupes terroristes comme Al-Shabaab. Les militants islamiques n'ont ni confirmé ni infirmé les informations selon lesquelles leur leader Ahmed Abdi Godan fait partie des personnes tuées lors de l'attaque au drone. Celle-ci a eu lieu à 60 kilomètres de la ville portuaire de Baraoué que les forces de l'Union africaine tentent de reprendre dans le cadre de leur offensive. Baraoué est une importante source de revenus pour Al-Shabaab et son dernier bastion dans le sud de la Somalie.
Nous vous le disions tout à l'heure, la Guinée a fait état d'un nouveau foyer d'Ebola dans la préfecture de Kérouane. Et en Grande-Bretagne, un infirmier contaminé par le virus Ebola a quitté l'hôpital à Londres ce mercredi. On écoute Nathalie Barge.
William Pooley a été soigné pendant 10 jours au Royal Free Hospital de Londres avec le sérum expérimental ZMAP. Face à l'augmentation des cas d'Ebola, le directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, Tom Frieden, a appelé la communauté internationale à agir de façon urgente afin d'endiguer l'épidémie qui, a-t-il souligné, se répand à l'échelle mondiale pour la première fois. Dans une vidéo traduite en français du département d'État américain, le président Barack Obama, s'adressant directement aux Africains, a présenté ses condoléances aux familles ayant perdu des proches infectés par la maladie. Les États-Unis et leurs partenaires travaillent avec les pays concernés pour contribuer à stopper cette maladie, a déclaré M. Obama, ajoutant que la première étape est de connaître les faits.
Vous ne pouvez pas l'attraper lors de contacts ordinaires, par exemple en étant assis à côté d'un passager dans un bus. Une personne n'est pas contagieuse lorsqu'elle ne présente pas de symptômes comme de la fièvre. Deuxièmement, le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée, sueur, salive ou sang par exemple, ou avec un objet contaminé comme une seringue. C'est pour ça que la maladie se propage plus rapidement lorsque les patients sont soignés chez eux ou qu'ils sont inhumés par leur famille ou leurs amis.
République centrafricaine, les premiers résultats d'un prélèvement fait ce matin sur une fille de 12 ans soupçonnée d'avoir contracté le virus Ebola se sont révélés négatifs. La population est soulagée, mais le ministère de la Santé appelle à plus de prudence. Félix Yepassi-Zembro.
Dans la matinée, la fille était transférée de Zongo en République démocratique du Congo au complexe pédiatrique de Bangui, présentait des symptômes proches de ceux de la fièvre hémorragique. La nouvelle a créé une panique généralisée au sein du dit complexe et dans la ville. Certains parents ont quitté précipitamment l'hôpital avec leurs enfants. Il aura fallu plusieurs heures pour que le premier test fait par l'Institut Pasteur de Bangui donne un brin d'espoir. Marguerite Samba Maliavo, ministre centrafricain de la Santé.
Selon les résultats que j'ai reçus de l'Institut Pasteur cet après-midi, l'examen qui a été fait sur cette fille pour la recherche de la maladie à virus Ebola est revenu négatif. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. La population doit rester sereine pour nous aider à mieux gérer cette prévention, cette riposte que nous avons entamée vis-à-vis de cette maladie grave.
Le deuxième résultat du prélèvement est donné jeudi. En attendant, l'enfant et le personnel soignant qui étaient en contact avec elle sont toujours mis en quarantaine provisoirement.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le désarmement des FDLR n'avance pas beaucoup. C'est en ces termes que s'est exprimé Martin Kobler, le chef de la mission de l'ONU en RDC. La première priorité de la MONUSCO, souligne-t-il, c'est encore la reddition volontaire de ces rebelles hutus rwandais. Mais si cela ne marche pas, l'option militaire est sur la table, a-t-il prévenu. À noter que seuls 200 combattants des FDLR environ se sont rendus sur les 1500 à 2000 hommes que compterait encore le mouvement RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a entamé une tournée de 4 jours en Europe. Il s'agit notamment de rassurer les alliés des États-Unis au sein de l'OTAN face à l'agression russe en Ukraine. Camille Gros-Didier.
Mercredi, le président Barack Obama s'est entretenu en Estonie avec ses homologues estoniens, lettons et lituaniens de la menace posée par la Russie non seulement à l'Ukraine, mais aux États baltes. Ces pourparlers visent, selon M. Obama, à montrer aux trois anciennes républiques soviétiques que nous tenons parole en ce qui concerne nos obligations découlant de traités. Cette escale à Tallinn était la seule étape du président américain avant le sommet de l'OTAN qui réunira les 28 pays membres jeudi et vendredi à Newport, au pays de Galles. Au menu des pourparlers, la crise en Ukraine et les moyens pour l'Alliance de renforcer son aide à Kiev. Les dirigeants doivent notamment se pencher sur la mise en place d'une force de réaction rapide qui pourrait être déployée dans l'est de l'Europe. Ce qui suscite de vives protestations de la part de Moscou, qui ne veut pas d'une telle force près de ses frontières.
Le président russe Vladimir Poutine a présenté ce qu'il appelle un plan d'action pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Les précisions de Sarah Diaby.
S'exprimant à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, le président russe a dit que l'armée ukrainienne et les rebelles doivent cesser les opérations actives dans les régions de Donetsk et Louhansk. Vladimir Poutine demande aussi aux troupes ukrainiennes de se retirer à une distance à partir de laquelle leurs tirs d'artillerie n'atteindront pas les zones peuplées. Il a en outre appelé à un contrôle international du respect de la trêve, un échange inconditionnel de prisonniers ainsi que l'ouverture de couloirs humanitaires. L'Ukraine et l'OTAN disent de leur côté que les troupes, les blindés russes, ont franchi la frontière au cours de récents jours, obligeant les soldats ukrainiens à battre en retraite alors qu'ils avaient gagné du terrain contre les rebelles. Pour le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, la proposition n'est qu'une mauvaise plaisanterie destinée à la communauté internationale avant le sommet de l'OTAN de cette semaine au Pays de Galles.
Sous la pression notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France vient d'annoncer le report de la livraison du premier navire de guerre Mistral à la Russie. Prévu pour octobre, cette livraison sera donc différée, Paris ayant déterminé que les conditions ne sont pas réunies. La mesure est liée à la crise en Ukraine, selon le communiqué de l'Élysée.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe se dit consternée par le meurtre du photographe russe Andriy Steinin dans l'est de l'Ukraine. L'OSCE demande aux autorités ukrainiennes d'ouvrir une enquête. Steinin était porté disparu depuis près d'un mois.
Le président Barack Obama a réaffirmé la détermination des États-Unis à vaincre les djihadistes de l'État islamique suite à la décapitation du journaliste Steven Sutloff. Ces actes horribles ne font que nous unir en tant que pays et renforcent notre détermination à aller combattre ces terroristes. Et ceux qui commettent l'erreur de s'en prendre à les Américains apprendront que nous n'oublierons pas, que nous avons un long rayon d'action et que justice sera rendue, a déclaré Barack Obama. Les agences de renseignement des États-Unis ont confirmé mercredi l'authenticité de la vidéo de l'exécution de Steven Sutloff. Voilà pour le journal. Il est 18h42 en temps universel, 14h42 ici à Washington, chez Ruben Dorcil et Morgane Guériec en votre compagnie. Restez branchés pour la partie magazine de cette émission.
Le président Barack Obama a qualifié d'acte horrifiant de violence la décapitation du journaliste américain Steven Sutloff par les militants de l'État islamique. S'adressant à la presse aujourd'hui en Estonie, M. Obama a dit que ceux qui ont tué M. Sutloff ont échoué dans ce qu'ils tentaient d'accomplir parce que les États-Unis et le monde ont été répugnés par leur barbarie et ne laisseront pas intimider.
Dans la vidéo publiée sur l'exécution de Steven Sutloff, l'État islamique avertit que son meurtre est en représailles au raid aérien américain contre le groupe en Irak. Sutloff, rappelons-le, est le deuxième journaliste américain après Jim Foley, le mois dernier, à être décapité par les militants de l'État islamique.
Des critiques du président Obama lui reprochent de ne pas avoir de stratégie pour barrer la route à la menace grandissante que constitue l'État islamique, allant même jusqu'à dire que M. Obama aurait dû intervenir militairement en Syrie, où le groupe combat aussi le régime du président Bachar al-Assad, dont les Occidentaux réclament le départ.
Alors, quelles options pour le président Obama? La question posée par Idrissa Seloudia à André de Nesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique.
Mais pour l'instant, c'est l'option militaire, mais pas, les, comme ils disent, les bottes sur le terrain, c'est-à-dire pas de soldats américains. Mais pour l'instant, ils sont en train d'attaquer des bases d'ISIS. Et puis maintenant, la grande question est, est-ce qu'il y aura d'autres pays qui vont se joindre ou est-ce que c'est les Américains qui vont aller tout seuls? Mais au point de vue diplomatie, je ne vois vraiment pas de possibilité dans l'avenir.
Il y en a qui estiment qu'il faudrait, et ça n'a pas été déjà fait, mais que ce n'est pas encore trop tard, d'étouffer cette menace dans l'œuf en allant directement en Syrie.
Alors, on se met du côté, justement, de président Assad, parce que lui, il est contre l'ISIS, les Américains aussi. Alors, est-ce qu'on est partenaire tout à coup, là, maintenant? Alors, est-ce que les Américains vont attaquer justement, ISIS en Syrie. Donc, c'est vraiment une sorte de vraiment une coalescence de forces ou de pays qui, normalement, ne seraient pas amis, entre guillemets, amis.
Les États-Unis disent que de toute façon, ils ne vont pas coordonner si attaque il y a en Syrie avec, Bachar al-Assad.
Oui, oui, ils ne vont pas coordonner, ils ne vont pas lui demander permission. Mais c'est certain qu'une fois qu'ils attaquent, c'est certain que qui est-ce qui attaque ici ? C'est le gouvernement syrien. Donc, ils sont du même côté s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas.
Si les États-Unis décident d'agir en Syrie, ils le feront. Que les Syriens estiment que c'est une violation de leur souveraineté nationale et tout ça, de l'intégrité territoriale de la Syrie, ça a peu d'importance.
Parce que les Américains peuvent dire, oui, nous n'attaquons pas Bachar al-Assad, nous attaquons ici. Et ici, c'est justement en partie en Syrie, donc pourquoi on ne les attaquerait pas là-bas aussi ? Mais pour l'instant, ils l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire ?
Ça se peut. Je suis certain que c'est une des options que les dirigeants américains sont en train de discuter, c'est certain.
Mais ce qui est exclu, c'est des troupes au sol, mais les frappes aériennes avec des drones, avec des avions.
Tout à fait, c'est ça. Ça va continuer. Et d'ailleurs, il l'a dit, je crois, oui, il y a quelqu'un qui a dit dans l'administration américaine, ça peut durer longtemps.
André Denesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique.
This is the voice of America, Washington, D.C.
Dans un nouveau rapport, Amnesty International dénonce la répression brutale de 4 mouvements de protestation entre juin 2012 et mars 2014 par les forces de sécurité soudanaises, auxquelles l'ONG impute de nombreux homicides illégaux et actes de torture.
Dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique, un responsable d'Amnesty International à Dakar, au Sénégal, a précisé que le rapport examine des informations faisant état de violations des droits humains commises ces 2 dernières années contre des manifestants qui, dans la majorité des cas, se comportaient de manière pacifique. On écoute Stephen Cockburn.
Donc, entre juin 2012 et août 2014, nous avons collecté l'évidence d'une série inquiétante d'arrestations, des détentions arbitraires, d'actes de torture, des cas d'usage excessif de force par les forces de sécurité soudanaises contre les manifestants largement pacifiques. Nous avons trouvé qu'en 2013, au moins 185 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. La majorité sont mortes après avoir reçu une balle dans la tête ou dans la poitrine. Beaucoup d'autres ont été abattus de dos. C'est un signe d'une volonté d'écraser les contestations au Soudan suite à une détérioration de l'économie du pays. Il y a aussi des centaines de manifestants qui ont été arrêtés, détenus au secret, maltraités et souvent torturés.
Et Amnesty International s'élève contre l'impunité pratiquement totale avec laquelle les forces de sécurité opèrent.
Exactement. Donc les forces de sécurité au Soudan ont été accordées l'immunité. Et ça veut dire que ces violations des droits humains, ça existe, ça fait ressortir d'un climat d'impunité généralisé dans lequel personne n'est mis devant la justice. Donc, malgré les évidences crédibles de violations graves, les autorités soudanaises n'ont jamais ouvert une enquête exhaustive, en partielle et effective. Et ils n'ont jamais apporté réparation aux victimes. Donc, sur les 85 plaintes au pénal posées par les familles des victimes, il n'y a qu'une seule à pour l'instant débouché sur un procès. Pour Amnesty, le message est très très clair, il faut mettre un terme à la répression brutale de la contestation au Soudan et les membres de forces de sécurité qui ont tué, blessé ou tout.
Stephen Cockburn d'Amnesty International, qui était joint à Dakar par Camille Grosdidier.
L'ONG se dit particulièrement choquée par le fait que les forces de l'ordre soudanaises ont eu recours à des balles réelles pour disperser des manifestants et qu'en 2012, une dizaine d'enfants ont été tués en une seule journée, non seulement sur 85 plaintes au pénal déposées par des familles des victimes des manifestations de 2013, une seule a pour l'instant débouché sur un procès, mais certains de ceux qui ont porté plainte font l'objet de harcèlement et d'intimidation, note Amnesty.
On met le cap sur le Burkina Faso dans sa croisade contre la révision de l'article 37 de la Constitution. L'opposition burkinabé est allée à la rencontre de l'Église catholique à travers l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo. Ce dernier a reçu le week-end dernier les partis pro-référendum. C'est le chassé-croisé entre l'opposition et le pouvoir, nous dit notre correspondant Zoumana Wonogo.
Faites du bon travail pour la paix sociale. C'est avec ces éclats de rire que l'archevêque et le chef de file de l'opposition se sont présentés à la presse après leur entretien à huis clos. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'objet de leur rencontre est loin d'être de la rigolade. On écoute Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition.
Nous pensons que la question de la révision de l'article 37 est une question inopportune et même dangereuse. Il est important que l'Église catholique le sache. Et maintenant, peut-être que sur cette base-là, elle peut jouer le rôle qu'elle doit jouer dans une société pour parfois ramener les gens à la raison ou les ramener ou les inviter à s'asseoir pour discuter et dialoguer. Nous attendons d'abord qu'elle ait une compréhension des positions politiques de l'opposition. Et c'est pour ça que nous venons la voir. Mais nous l'attendons surtout qu'elle interpelle l'ensemble des acteurs de la vie politique sur la gravité de la situation et qu'elle leur donne les conseils avisés sur la voie qui doit être suivie pour éviter que notre pays ne sombre dans le chaos.
L'opposition et les partis au pouvoir semblent se marquer à la culotte. Il y a quelques jours seulement, le parti de Blaise Compaoré et ses alliés étaient chez l'archevêque. Alors, comment comprendre ce chassé-croisé ? Suivons les explications du maître Binewende Sankara.
C'est plus qu'à la culotte, il ne faut jamais lâcher. C'est un combat de titans, il est de longue haleine, l'essentiel c'est qu'on va y arriver. L'opposition politique continue à faire son plaidoyer en attendant que M. Blaise Compaoré entende raison. Donc nous ne copions pas du tout le Front Républicain ou le parti au pouvoir, pas du tout.
Zubana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Khalil Gay avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Ebola qui poursuit sa course macabre en Afrique et vient d'apparaître dans un sixième pays, le Sénégal. Les premiers essais cliniques de vaccins sur des humains ont commencé. Que pensez-vous de la gestion de cette crise par la communauté internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur La Voix de l'Amérique.
Retour sur la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. 5 pays frontaliers de la Côte d'Ivoire sont touchés. Les internautes ivoiriens chantent contre l'Ebola, une initiative pilotée par le journaliste-blogueur Israël Guébo. Les précisions de Sarah Diaby.
L'Afrique centrale est désormais concernée avec la République démocratique du Congo qui vient de confirmer plusieurs cas à Djéra dans la province de l'Équateur. Ses voisins touchés, la Côte d'Ivoire est sur le pied de guerre et privilégie la prévention. Les autorités ont pris plusieurs mesures de sécurité dont la fermeture des frontières avec les pays touchés. Les internautes ne veulent pas rester en marge de cette sensibilisation. Ils ont décidé de lutter contre le virus à leur manière en chanson. Stop Ebola, c'est le titre donné à ce morceau ficelé en quelques jours dont le clip a été réalisé en une journée. Israël Yoruba, blogueur et journaliste, compositeur de la chanson, veut mettre ses compatriotes en garde contre la réalité de la maladie.
Vous savez que le gouvernement a lancé une grosse campagne de communication autour de la sensibilisation contre la propagation du virus Ebola. Et je me suis dit qu'à côté de cette campagne officielle et institutionnelle, il y a aussi une campagne, une action que les citoyens doivent mener, chacun avec ce qu'il a, chacun avec le talent qu'il a.
Pour l'initiateur du projet, chacun à son niveau doit jouer un rôle important et la prévention en Côte d'Ivoire est en marche. Selon lui, le message est entendu par les Ivoiriens, même s'il reste encore beaucoup à faire.
Aujourd'hui, la vidéo a plus de 10 200 vues sur YouTube. Il y a plus de 2000 partages sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a un écho. Par contre, il faudra l'accentuer avec des actions beaucoup plus, j'ai envie de dire, réelles, par opposition au monde virtuel. Parce que si Internet, ça bouge beaucoup, il faut qu'on arrive à transposer cette musique-là maintenant. Il faut qu'on l'entende dans les bars, dans les maquis, dans les maisons, dans les voitures, afin que le message passe.
Au travers de cette chanson, le blogueur veut aussi sensibiliser les pays voisins, l'Europe et le monde entier, avec le sous-titrage de la chanson en anglais et en allemand.
C'est un message qui est fait pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour tous les pays qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous sommes en train de finir la version sous-titrée en anglais et la version sous-titrée en allemand pour que partout dans le monde, le message soit entendu et produit à chacun. Il faut se laver les mains avec de l'eau du savon, il faut éviter de manger la viande de brousse et puis il faut observer toutes les règles d'hygiène qui ont été émises par le gouvernement.
Le bilan de l'Ebola est lourd. Contre un tel danger, la prévention semble le moyen le mieux approprié pour freiner l'épidémie.
La région.
Merci Sarah Diaby. On passe tout de suite à l'actualité sportive avec Timothée Donangma. Et salut Tim.
Bonsoir Chérubin.
Open de tennis à New York, la Russe Ekaterina Makarova accède en demi-finale.
Eh oui Chérubin, elle a battu aujourd'hui la Bélarusse Victoria Azarenka 1-2-7, 6-4 et 6-2. Elle croisera en demi-finale soit la numéro 1 mondiale Serena Williams ou l'italienne Flavia Panetta. Et pour la première fois depuis 2011, la Danoise Caroline Wozniacki s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open et elle n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure pour laminer l'italienne Sarah Errani en 2-7, 6-0 et 6-1. Son adversaire en demi-finale sera la chinoise Peng Shuai. Et chez les hommes, Roger Federer a eu lui aussi une tâche aisée en huitième de finale, battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 3-7, 6-4, 6-3 et 6-2. Il croisera en quart de finale le Français Gaël Monfils, victorieux du Bulgare Grigor Dimitrov.
La phase de groupe du mondial de basketball homme se poursuit en Espagne, Timothée.
Aujourd'hui était une mauvaise journée pour les Africains puisque l'Argentine a défait le Sénégal 81-41. Sort similaire de l'Égypte face à l'Iran 88-73. L'Angola n'a pas fait mieux puisqu'il s'est incliné 87-93 face à la Slovénie.
Vraiment mauvaise journée pour les Africains. Merci Tim.
Pas de quoi.
Et comme chaque soir, on va se quitter en musique avec Roger Montou. Roger, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir?
Salut Gabi, salut Morgane. La chanson Boom Clap, hein, de l'auteur-compositrice, interprète britannique Charlotte Atchison, plus connue sous son nom de scène Charlie XCX, a gardé la 10e place dans le hip-parade américain. Écoutons.
Ça doit bien marcher pour elle car elle a sorti deux hippies en 2012
ah, oui.
Et son premier album studio True Romance début 2013.
Exactement Gabi, hein, elle a aussi d'ailleurs collaboré en 2012 sur la chanson I Love It du groupe Icona Pop, voilà. Puis en 2014 sur Fancy d'Iggy Azalea, une chanson Gabi qui continue jusqu'à présent d'ailleurs, hein, ici même aux États-Unis à cartonner.
Charlie XCX, Boom Clap, merci Roger.
Dis rien Gabi, mais j'espère que tu as aimé quand même, non?
Bien sûr, on retrouvera Roger Montou dans le RM Show à 20h, temps universel sur la Voix de l'Amérique.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Laissez-nous vos messages sur Facebook et sur le site de La Voix de l'Amérique. Prochain rendez-vous dans une demi-heure avec Morgane Guériec et
Chérubin Dorsil.
first kiss just like a